Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 34e soirée d'éthique publique, la 7e de cette année universitaire du Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous, le premier mardi de chaque mois, et bienvenue aussi pour ceux qui viennent pour la première fois. Le mois dernier, nous avons porté notre regard sur l'état de la société russe au lendemain de l'élection présidentielle de Vladimir Poutine. Je rappelle qu'il est possible d'écouter, de réécouter l'enregistrement des soirées d'éthique publique sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresèvres.com. Alors, avant d'aborder le thème de notre soirée, deux informations importantes. D'abord, vous signalez un cours du département d'éthique publique qui pourrait intéresser un certain nombre d'entre vous sur le thème de la dimension politique du pardon. Peut-être qu'on pourra conseiller à tous ceux qui se présentent à l'élection présidentielle de suivre ce cours, ça pourra peut-être être aidant. Alors, la dimension politique du pardon avec Benoît Guillou, qui est le rédacteur en chef de la chronique d'Amnesty International, un cours de 4 séances de 2 heures. Le mardi de 19h30 à 21h30, qui commencera le mois prochain, le 2 mai jusqu'au 23 mai. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous renseigner au secrétariat. Autre information d'importance, nos soirées d'éthique, vous le savez, ont lieu le premier mardi de chaque mois. Or, le premier mardi du mois de mai est le 1er mai, et le deuxième mardi est le 8 mai. Alors, j'y ai vu une invitation forte au repos. Donc, il n'y aura pas de soirée d'éthique publique durant le mois de mai, mais ce sera pour mieux nous retrouver, évidemment, le mardi 5 juin pour la dernière soirée de l'année, au cours de laquelle nous essaierons, avec nos invités, de tirer quelques enseignements de la période électorale et de la situation politique de notre pays. Nous n'en sommes pas là ce soir. Et nous allons essayer d'y voir un peu plus clair sur un autre sujet extrêmement important qui est celui de la corruption. Conflits d'intérêts, biens mal acquis, favoritisme, détournement de fonds, trafic d'influence, du niveau local à l'échelon international en matière de politique, en matière économique notamment, la corruption sous différentes formes, nous le savons, gangrène la vie des sociétés, les affaiblissent. Le droit et la justice peinent souvent à s'imposer. Alors, faut-il en juger, faut-il en dire que la lutte est vaine, que la corruption est une fatalité? Nous savons en même temps que la mobilisation d'États, d'institutions internationales, de nombreuses associations, la perception aussi de l'intérêt bien compris par de nombreuses entreprises indique que des avancées sont quand même possibles. Alors, pour essayer de mieux comprendre les mécanismes de la corruption, essayer aussi de mieux comprendre la nécessité d'y faire face, comment y faire face, eh bien, je suis très heureux d'accueillir nos invités ce soir. D'abord, Monsieur Jean Mercart, à ma droite, rédacteur en chef de la revue Projet. La revue Projet, vous le savez, est publiée par le CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociale, animé par les Jésuites. Et donc, vous trouverez la revue à votre disposition au stand de presse à la sortie de cette salle. Jean, tu es, entre autres choses, administrateur de Sherpa, qui est une association qui, je crois, ambitionne d'accompagner, on pourrait dire, les populations victimes de violences économiques dans leur quête de justice et qui travaille notamment sur l'argent de la corruption ou d'évasion fiscale. Tu es auteur, co-auteur avec Antoine Dulin, je crois, d'un rapport intitulé « Bien mal acquis, à qui profite le crime ?», qui est un rapport du CCFD, du Comité catholique contre la faim et pour le développement, à l'origine de l'enquête sur le patrimoine de plusieurs chefs d'État africains. Alors ce soir, eh bien, entre autres choses, je crois que tu partiras de cette affaire un peu des biens mal acquis, peut-être ce qu'elle révèle des possibilités et aussi des obstacles à la lutte contre la corruption. Merci beaucoup, Jean, d'être avec nous ce soir. Monsieur Éric Halt, vous êtes magistrat, vous avez été substitut du procureur, puis vice-président dans une chambre correctionnelle à Paris spécialisée en matière économique et sociale. Vous êtes actuellement conseiller référendaire à la Cour de cassation. Vous êtes membre du syndicat de la magistrature et depuis des années, vous travaillez sur ce dossier de la corruption. Vous êtes notamment au comité de parrainage de l'association Anticor, qui rassemble des personnes de toutes tendances politiques décidées à combattre la corruption et à réhabiliter la politique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier qui vient de sortir, je crois, il y a peu, avec Irène Luc, intitulé « L'esprit de corruption » aux éditions Le Bord de l'eau, un beau titre pour une maison d'édition, et livre que nous pourrons trouver également au stand de presse, de publication à la sortie. Et vous nous aiderez notamment peut-être à adresser le tableau de la situation, peut-être en nous aidant à percevoir un peu les zones grises et les zones noires de la corruption. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Enfin, je suis également très heureux d'accueillir Madame Tiphaine de Sachy. Vous me corrigerez si je ne vous présente pas de manière juste. De formation commerciale, HEC, Sciences Po Paris, vous avez travaillé dans plusieurs groupes industriels, notamment dans le domaine des ressources humaines. Et actuellement, vous êtes responsable dans un grand groupe international qu'on ne nommera pas ce soir, d'un programme d'intégrité dont le principal objet est précisément la prévention de la corruption. Alors, vous nous en direz plus tout à l'heure en nous expliquant comment précisément une grande entreprise essaye de gérer cette question. Merci beaucoup, Tiphaine, d'être avec nous ce soir. Alors, comme nous en avons l'habitude, nous allons d'abord prendre le temps d'écouter nos invités, nos intervenants, et puis ensuite, nous aurons un temps de débat tous ensemble. Je laisse la parole sans plus attendre à Monsieur Éric Alt.
Merci pour votre invitation. Je voudrais commencer par rappeler ce qu'on perd parfois de vue, à savoir que la fraude et la corruption, au sens large, sont des facteurs de déclenchement de la crise. Aux États-Unis, la crise des subprimes commence par une gigantesque fraude au crédit hypothécaire. Les institutions prêteuses ont abandonné le respect des règles. Elles ont accordé des prêts dépassant de loin les capacités des emprunteurs. Elles ont enfin titrisé ces prêts, donc elles ont adossé ceci à des titres, sans préciser aux acheteurs de ces titres que c'était potentiellement des obligations pourries, et tout ceci avec le concours des agences de notation. Ça, c'est le départ. Et les répliques européennes, dans les répliques européennes, il y a souvent de la fraude et de la corruption également. En Islande, fraude gigantesque au contrôle prudentiel. Lorsqu'on fait le bilan il y a quelques années, on s'aperçoit que le déficit de l'Islande, mais qui tient au fait que l'État a recapitalisé les banques, est égal à 9 fois le PIB de l'Islande. En Irlande, crise bancaire. On découvre, parmi pas mal d'autres choses, une sorte de confusion totale des intérêts entre les dirigeants des milieux bancaires et les autorités politiques. Crise grecque, évidemment, qui commence par la révélation du maquillage des comptes grecs avec le concours de la banque Goldman Sachs, afin d'éviter de faire apparaître à l'Union européenne l'importance de ce déficit. Tout ceci dans un climat de corruption important. Puis j'ajoute que nous avons une corruption structurelle, les paradis fiscaux. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler avec Jean Merkert et beaucoup d'autres organisations à la plateforme contre les paradis fiscaux. Mais les paradis fiscaux, selon Tax Justice Network, qui est une ONG qui a fait un travail très, très important et très sérieux sur la question, ça représente sans doute environ 8 milliards qui sont évaporée de l'économie réelle. Et d'ailleurs, on a la version française. Il y a quelques jours, un journaliste, Antoine Paillon, a sorti les 600 milliards qui manquent à la France. J'ai compris que c'était uniquement sur le volet évasion fiscale liée à la banque UBS. Donc, il y a des sommes considérables. Et les paradis fiscaux, ce ne sont pas des territoires exotiques. Les paradis fiscaux, les zones d'opacité financière sont au cœur des pays du Nord, c'est la City de Londres, c'est l'État du Delaware aux États-Unis, c'est le Luxembourg, etc. Donc voilà le tableau général dans lequel il faut réfléchir. Alors, en France, l'esprit de corruption, lui aussi, se renforce par glissement progressif. zone grise de la corruption. Donc zone grise, je me rapporte à la typologie du politologue américain Heidenheimer. Ce sont des zones où la corruption est réprouvée par l'opinion, mais admise par les milieux dirigeants. Mais le lobbying, le conflit d'intérêts, c'est par excellence un précurseur de la corruption. Et d'ailleurs, dans certaines situations, les effets du lobbying et du trafic d'influence, et, ça peut être très très délétère, mortel. L'affaire du Mediator, c'est le produit des conflits d'intérêts et du trafic d'influence. Alors, après l'affaire du Mediator, il y a une loi qui est censée répondre à ce scandale. Mais les conflits d'intérêts dans leur ensemble, c'est quelque chose qui n'a jamais été réglé. Donc on est toujours dans les conflits d'intérêts et l'art de les ignorer. Pourtant, durant l'été 2010, il y a eu un florilège de conflits d'intérêts. C'était l'affaire Woerth-Bettencourt. Le président de la République a nommé une commission, présidée par le vice-président du Conseil d'État. Celle-ci a rendu un rapport très intéressant, avec des recommandations tout à fait raisonnables, qui ont été traduites dans un projet de loi. On n'a jamais trouvé le temps pour inscrire ce projet de loi au programme du Parlement. J'ajoute que, d'une façon générale, dans le financement, dans le contrôle des financements politiques, la loi est dure, mais la pratique est molle. Nous avons une douzaine de partis nécessaires à la démocratie qui sont sur la scène politique. Combien y a-t-il de partis officiellement enregistrés à la Commission de financement des comptes de campagne? 297. Un certain nombre d'entre eux ne sont évidemment que des pompes à finances. S'ajoute à cela la difficulté de contrôler les comptes de campagne. On est encore aujourd'hui en train de se poser la question de savoir s'il y a eu des rétrocommissions pour financer la campagne de M. Balladur. Peut-être ne le saura-t-on jamais. Mais ce que l'on sait, c'est ce qu'a dit un membre du Conseil constitutionnel chargé de la vérification de ces comptes. Et il a dit, nous avons couvert une belle entourloupe. Jacques Robert, membre du Conseil constitutionnel, nous avons couvert une belle entourloupe. Aujourd'hui, ce n'est plus le Conseil constitutionnel qui contrôle les comptes, c'est la Commission des comptes de campagne, mais l'effectivité de ce contrôle pose toujours problème. Et puis, nous avons un problème structurel de cumul des mandats. Ce n'est pas toujours un cumul d'agenda, c'est parfois quelque chose qui ne permet pas à l'élu d'assumer la mission pour laquelle il est élu. 83% des députés de l'Assemblée législature finissante, sont en situation de cumul des mandats. C'est une situation tout à fait singulière en France, qu'on ne retrouve dans aucun pays européen proche. Bon, et s'ajoute à cela le fait que le mauvais exemple vient d'en haut. Et on passe de la corruption grise à une corruption plus noire, réprouvée par tous, mais le mauvais exemple vient d'en haut. L'irresponsabilité des ministres, du fait des fautes graves de leur gestion financière. Si on va au pénal, d'accord, mais les fautes graves de la gestion financière sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière. Il y a eu un amendement parlementaire récemment pour rendre les ministres justiciables de cette autorité. Cet amendement a été rejeté. Mauvais exemple vient d'en haut. Aucune conséquence n'est tirée des fautes déontologiques graves d'un certain nombre de policiers, de hiérarques policiers, d'un certain nombre de hauts magistrats. Au contraire, mauvais exemple vient d'en haut, interrogation sur le fonctionnement de la Cour de justice de la République. Certes, les formes sont respectées, mais 3 magistrats professionnels, 12 magistrats issus du Parlement, lors de la dernière affaire importante qui a été jugée, l'affaire Pasqua, il y a eu un sentiment de malaise. Certains se sont posé la question de savoir si les députés qui siégeaient dans cette cour avaient véritablement conçu qu'ils étaient juges au moment où ils siégeaient dans cette cour et qu'ils n'étaient plus parlementaires. Naturellement, toujours la citadelle d'impunité du président de la République, article 67 de la Constitution, il ne peut, pendant l'exercice de son mandat, être mis en cause pour des faits sans rapport direct avec l'exercice de son mandat. Le secret défense, qui ne profite pas qu'aux militaires. Je rappelle que c'est grâce à l'usage sans doute abusif du secret défense que que nous tous, contribuables, avons payé les 460 millions d'euros nécessaires au terme d'un arbitrage pour solder l'affaire des frégates de Taïwan. Mauvais exemple vient d'en haut. Le contrôle des marchés publics est de moins en moins effectif. Il y avait une mission. Pourtant, la commande publique, c'est 150 milliards en France. Il y avait une mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les délégations de services publics. Ce n'est plus qu'une coquille vide. Son personnel n'a pas été renouvelé. Nous avions une direction de la concurrence et de la répression des fraudes. Les fonctionnaires ont été répartis en régions. Et dans les régions, ils ont toujours théoriquement en charge le contrôle des marchés, mais beaucoup d'autres priorités. Et sans doute que le contrôle des marchés publics n'est pas la priorité essentielle. Même le contrôle de l'égalité préfectorale, de l'égalité des actes des collectivités locales. Il y a un sénateur qui a rendu un rapport récent, et ce sénateur a dit « ce n'est qu'une passoire à géométrie variable ». Donc un paysage assez dévasté, et donc une tentation de la fatalité, et d'autant plus une tentation de la fatalité que le cœur même du système, à savoir la justice, est atteint. Le parquet ne joue pas toujours la mission qui est la sienne. L'ancien procureur général de la Cour de cassation disait même « le parquet est dans un état de coma dépassé ». Donc la culture de soumission est parvenue à son terme. Et certaines affaires sortent toujours, mais du fait du hasard, du fait des aléas. Vous avez eu, par exemple, reprend l'affaire Woerth-Bettencourt, elle n'avait pas vocation à être traitée par des juges d'instruction. Elle a été traitée par des juges d'instruction que parce que le procureur, il avait la haine pour un magistrat du siège et elle a excédé trop manifestement ses pouvoirs en espionnant ce magistrat, et donc là ça ne devenait plus possible, effectivement, l'affaire a dû être transférée devant une autre juridiction. L'affaire des biens mal acquis, c'est un travail remarquable qui a été fait par le CCFD, par Sherpa, par Transparency International. C'est une jurisprudence très intéressante qui a pu être forgée à cette occasion, mais c'est une jurisprudence fragile. Parce que le parquet ne voulait pas sortir cette affaire, il a même fait tout ce qu'il pouvait pour que cette affaire ne sorte pas. Les associations ont dû aller jusque devant la Cour de cassation pour obtenir devant la Cour de cassation que le droit leur soit accordé de se constituer partie civile. Et ça veut dire, d'un point de vue technique, qu'elles ont dû démontrer qu'elles avaient un intérêt direct à agir. Donc ça veut dire que chaque fois que le parquet s'oppose à ce qu'une affaire soit instruite, et chaque fois qu'une association souhaiterait que cette affaire soit instruite et qu'elle a une légitimité pour le faire, qu'il y a un travail derrière, qu'il y a des véritables commencements de preuves, eh bien l'association va devoir démontrer qu'elle a un intérêt direct à agir. Donc jurisprudence très fragile, hasard, aléa. S'ajoute à cela que la police, elle aussi, a des effectifs réduits pour traiter les affaires en col blanc. Et c'est d'ailleurs même un rapport du ministère de la Justice qui le dit, donc c'est un indicateur d'alerte, ce ne sont pas des syndicats de magistrats, c'est un rapport du ministre de la Justice qui le dit. Puis alerte aussi sur le plan européen, dans le traité de Lisbonne, il y a la possibilité de créer un parquet européen pour lutter contre la fraude aux intérêts financiers de l'Europe et pour lutter contre la criminalité transnationale. Il est possible de créer ce parquet européen à partir d'une coopération renforcée de 9 États. J'ajoute que cette proposition de parquet européen, elle est sur la table depuis 1997. C'est un travail qui a été fait, qui a été piloté par Mireille Delmas-Marty, juriste française. Donc depuis 1997, elle dit qu'il faudrait sortir de cette bureaucratie, de cette architecture baroque pour lutter contre la criminalité sur le plan européen. Il faudrait unifier un certain nombre d'infractions et de règles de procédure pénale et il faudrait créer un parquet européen. En 2010, l'Espagne propose, sur le fondement de ce qui est inscrit dans le traité de Lisbonne, de créer un parquet européen. Il ne s'est pas encore trouvé 8 autres États pour faire une coopération renforcée afin de créer ce parquet. Pourtant, de l'aveu de la Commission européenne, c'est un chiffre qui est sorti par la Commission européenne, la fraude aux États membres, la fraude coûte chaque année 120 milliards d'euros aux États membres. 1% du PIB de l'Union européenne, à peu près l'équivalent du budget de l'Union européenne. Fraude carrousel à la TVA, estimé par la Cour des comptes de l'Union européenne, environ 18 milliards pour la Grande-Bretagne et pour l'Allemagne, où il a été possible de faire des investigations. Dans les autres États, il n'a pas été fait d'investigation suffisamment approfondie pour évaluer le montant de la fraude. Rien que pour la fraude à la taxe carbone, 5 milliards d'euros. On va d'ailleurs changer la législation depuis. 5 milliards d'euros, 1,6 milliard pour la France. On est en train de juger quelques pans de cette affaire. Et donc, dans ce contexte-là, dans ce contexte d'affaiblissement des États, d'insuffisance de la coopération judiciaire, c'est non seulement la fraude économique qui l'emporte, mais c'est aussi un risque de retour ou d'implantation de la criminalité organisée. D'abord, Roberto Saviano, qui est un grand connaisseur de la mafia, s'il en est, lorsqu'il est venu en France il y a peu pour présenter son dernier ouvrage, a dit « Attention, la corruption est en train de gagner les pays du Nord parce qu'effectivement, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de justice à la hauteur des enjeux, de coopération judiciaire et policière à la hauteur des enjeux. Donc, faites attention. Il y a d'ailleurs déjà quelques alertes à Duisbourg, etc. Mais la mafia n'est pas du tout réservée à l'Italie. Alors, dans ce paysage-là, je terminerai quand même pas de façon trop démoralisante, il y a une capacité de résistance. Je rappelle que des peuples qui étaient dans des situations plus difficiles encore que la France ont su réagir et ont remporté de beaux combats. Au Brésil, au Pérou, Corée du Sud, même en Thaïlande, le président corrompu a été poursuivi, traduit en justice, condamné pour des faits de corruption. Je ne parle pas de la Tunisie ou de l'Égypte, où les faits de corruption ont sans doute exacerbé la révolution. Qu'importe ce que la révolution est devenue, au départ, il y a quand même eu une réaction des peuples. À un moment, ce n'est plus possible. J'ajoute aussi, deuxième élément positif, certes, des hiérarques de la fonction publique, de la police, de la magistrature, ont trahi leur mission, se sont déshonorés, à mon sens. Mais globalement, nous avons une police, une magistrature, une fonction publique qui sont intègres, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays. Et donc ces fonctionnaires, ces magistrats intègres sont autant de points d'appui pour lutter contre la corruption. Puis ensuite, nous sommes quand même en France porteurs d'un héritage, et parmi ces héritages, celui des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Et dans cette Déclaration des droits, il y a autant d'éléments qui s'opposent à la corruption. L'égalité devant la loi, la liberté d'expression, le droit pour les citoyens de demander compte aux agents publics de leur administration, l'égale admissibilité aux emplois publics, la séparation des pouvoirs, autant d'obstacles à la corruption. Et j'ajoute d'ailleurs que si la corruption peut se faire oppressante, la même Déclaration des droits dispose que c'est un droit naturel et imprescriptible que de résister à l'oppression. Donc je pense que cet esprit de résistance qui est inscrit dans les lois fondamentales de la République est aussi, pour l'instant, le meilleur antidote à la corruption. Voilà un tableau très général pour introduire le sujet et les débats. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Éric Halt. Voilà, je crois que le tableau est bien dressé. Merci de cet état des lieux, ce paysage dévasté, peut-être qu'on ne pensait pas qu'il l'était autant, mais voilà, je crois que ça nous remène bien devant la réalité, paysage dévasté par la corruption de notre pays, et puis aussi au niveau européen, avec quand même des sommes énormes en jeu, mais heureusement, vous nous dites à la fin, et sûrement on aura l'occasion d'y revenir, notamment dans les questions, que nous ne sommes pas complètement désarmés et qu'il y a de nombreux points d'appui pour lutter contre la corruption. Alors on va essayer d'avancer un peu plus loin, peut-être avec quelques illustrations. Je laisse la parole à Jean Mercaire.
Merci beaucoup pour l'invitation. Moi je rentrerai par la petite porte pour répondre à cette question. La corruption est-elle une fatalité? En prenant cette affaire des biens mal acquis. En 2005, j'étais chargé du plaidoyer au CCFD Terre Solidaire, donc le Comité catholique contre la faim et pour le développement, en charge des questions de financement du développement. Donc mon boulot, c'était de faire pression sur les pouvoirs publics pour qu'ils annulent la dette des pays pauvres et pour qu'ils augmentent l'aide aux pays pauvres. Bon, mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait sans doute plus d'argent qui fuyait les pays en développement du fait de l'évasion fiscale, du fait de la corruption, que d'argent qui y entrait du fait de l'aide au développement. Donc je suis fils de médecin et on m'a enseigné le serment d'Hippocrate avant de soigner, d'abord ne pas nuire. Donc on a décidé de s'attaquer aux flux qui sortaient des pays en développement. et en particulier à ces flux de la corruption, qui étaient peut-être ceux qui sautaient le plus évidemment à l'imaginaire. Alors, ça m'a amené avec un stagiaire que j'ai embauché à cette époque-là, à faire le tour de cette question des biens mal acquis, des avoirs détournés par un certain nombre de dirigeants. Alors, on s'est focalisé sur les dictatures, sur un certain nombre de dictatures dans les pays en développement, Suharto, Marcos, les juntes militaires en Argentine, au Nigeria, Mobutu, etc. On a passé en revue une trentaine de pays. On a essayé d'estimer, alors, on n'avait aucune source primaire, disons, mais d'estimer à partir des sources existantes l'ampleur de ce patrimoine et de regarder quelle était la part qui avait été effectivement restituée ou gelée. Parce qu'il faut savoir que depuis 2003, il y a une convention des Nations Unies, qu'on appelle la convention de Mérida, contre la corruption, qui prévoit, comme principe du droit international, que les avoirs détournés doivent être restitués aux pays spoliés. Et on s'est rendu compte que sur la trentaine de chefs d'État dont on avait fait le tour et dont on estimait la fortune entre 100 et 180 milliards de dollars, il n'y avait que 1 à 2% qui avaient été effectivement gelés ou restitués. Alors on a cherché à comprendre pourquoi. Et puis sur la base de notre travail, qui a été publié en 2007, l'association Sherpa, avec d'autres associations, Survie et puis la Fédération des Congolais de la Diaspora, a retenu 5 familles qui avaient un patrimoine visiblement plus important sur le sol français. Il s'agissait des familles au pouvoir en Angola, au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville, au Gabon et en Guinée équatoriale. La plainte qui a été déposée à ce moment-là était une plainte simple, c'est-à-dire qu'on a donné à connaître au parquet de cette fortune importante sur le sol français et puis d'un certain nombre de soupçons dans des rapports du Fonds monétaire international, des Nations Unies, dans des rapports d'ONG, de détournement de la part des familles dans ces pays. Donc la plainte déposée était pour le chef de recel de détournement de fonds publics, c'est-à-dire utilisation sur le sol français d'argent d'origine illicite, puisque détourné aux fonds publics de ces États. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir. C'est pratiquement l'un des premiers dossiers qui arrive sur son bureau. Et comme il avait promis l'indépendance de la justice, etc., il ne l'a pas classé immédiatement. Il a demandé l'ouverture d'une enquête préliminaire. Donc c'est quelque chose qui est confié à des policiers et des gendarmes spécialisés dans la répression de la grande délinquance financière. Et cet office de la répression de la grande délinquance financière s'est pris au jeu et a découvert que le patrimoine que nous avions listé non seulement était bien celui des familles en question, mais qu'il y avait encore bien d'autres appartements, villas, voitures de luxe, etc. Et donc il a remis ce rapport au parquet, et de façon extrêmement surprenante, le parquet, à ce moment-là, dont il faut rappeler qu'il est sous la tutelle du garde des Sceaux, a classé l'affaire. C'était en novembre 2007. Alors, les ONG, à ce moment-là, en particulier Sherpa, on dit, mais qu'à cela ne tienne, on va porter une plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire en se déclarant victime du fait de la corruption qui a lieu sur le sol français. Et c'est Transparence internationale, avec des contribuables gabonais et congolais, qui ont porté plainte. Alors, en première instance, alors, il y a eu un certain nombre de pressions qui ont été faites sur les citoyens congolais en particulier qui ont voulu porter plainte. Il y a eu une mort mystérieuse au Congo-Brazzaville à ce moment-là, une maison qui est partie en fumée d'un journaliste franco-congolais, Bruno Osebi, qui était extrêmement mobilisé sur cette affaire. Le contribuable gabonais qui avait porté plainte a été débouté de sa demande par le juge en première instance. En revanche, Transparence internationale a été jugée recevable. Ça voulait dire que la plainte, qu'il pouvait y avoir un juge d'instruction, donc un juge indépendant qui pouvait mener l'enquête. Là encore, le parquet intervient et il fait appel de cette décision pour qu'une enquête indépendante n'ait pas lieu. En appel, le juge d'appel donne raison au parquet et dit on ferme la possibilité d'une enquête. Les associations ont fait appel et c'est la Cour de cassation qui, dans un arrêt historique, en fait, le 9 novembre 2010, a décidé qu'une association de lutte contre la corruption comme Transparence internationale était recevable comme partie civile dans une affaire de corruption internationale, ce qui a donné lieu à la nomination de deux juges d'instruction, le juge Leloir et puis un autre dont j'ai oublié le nom, qui ont depuis lors commencé leur enquête. Et vous avez peut-être entendu parler ces dernières semaines d'un certain nombre de saisies assez mirobolantes qu'ils ont opérées, notamment au 42 avenue Foch, chez le fils du président équato-guinéen, Teodorino Obiang Nguema. Ils ont trouvé alors des vins d'une valeur mirifique, des tableaux de maître, etc. Quelques mois au précédent, ils avaient saisi également sa collection de voitures de luxe. Alors, on trouvait des Maserati, des Porsche Carrera, des Ferrari, des Aston Martin, des Mercedes Maybach et une Bugatti Veyron, qui est apparemment la voiture la plus rapide et la plus chère au monde. Bon, donc ça a fait les choux gras de Paris Match, etc. Mais voilà, on en est là de l'enquête. Et la semaine dernière, puisque le fils Obiang Nguema n'a pas voulu se présenter devant la justice pour expliquer l'ampleur de son patrimoine, un mandat d'arrêt international a été envoyé contre Teodorino Obiang Nguema, ce qui est une première historique là encore, puisque ce monsieur est actuellement ministre de l'agriculture en exercice de la Guinée équatoriale. Alors, que retenir de cette affaire ? D'abord, on pourrait penser que la lutte contre la corruption est finalement une cause perdue, parce que le droit est en partie mal fait, c'est-à-dire que dans cette convention de Mérida que j'évoquais tout à l'heure, il appartient aux États spoliés de demander la restitution. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas Ali Bongo ou Denis Sassou Nguesso aujourd'hui au pouvoir qui vont demander qu'on confisque leurs propres avoirs à l'étranger. Donc là, on a une vraie insuffisance du droit existant. Deuxièmement, il y a ces paradis fiscaux, cette opacité financière qui est un obstacle essentiel à la localisation et à la saisie des avoirs détournés. Par exemple, cet avoir du 42 avenue Foch, 6500 m², donc dans un des plus beaux quartiers de Paris, il appartient non pas nominativement à Teodorino Obiang Nguema, mais à une holding qui s'appelle Ganesha Holding et qui est située en Suisse. Et nous, on a fait des enquêtes, des recherches pour savoir à qui appartenait cette holding. C'est une société écran dont on ne peut pas connaître les tenants, les détenteurs véritables. De même, dans de nombreuses affaires de localisation pour tenter de restituer les avoirs détournés par des dictateurs, les magistrats se sont heurtés à l'absence de coopération judiciaire de certaines places financières, y compris Londres. Quand vous avez un État comme le Liechtenstein, où si le juge français fait une demande de coopération judiciaire, derrière il y a 15 voies de recours au Liechtenstein avant que l'information puisse être transmise au juge français, vous imaginez bien que l'argent de la corruption a le temps de faire 100 fois le tour de la planète avant que le juge n'arrive à retracer une seule transaction. Troisième obstacle, c'est l'insuffisance des procédés anti-blanchiment. Alors, vous savez que depuis la fin des années 80, il y a un organe international qui s'appelle le Groupe d'Action Financière Internationale, le GAFI, qui a émis une quarantaine de recommandations pour lutter contre le blanchiment, c'est-à-dire le passage de l'argent sale dans l'économie réel, propre. Bon. L'esprit de cette législation anti-blanchiment, c'est de responsabiliser tous les établissements, toutes les banques, tous les casinos, etc., qui peuvent recevoir de l'argent en grande quantité. On parle du « know your customer », pour les professionnels, c'est quelque chose qui parlera, c'est-à-dire l'obligation de connaître son client. Si vous allez déposer demain 10 000 euros en liquide chez votre banquier, il doit savoir, il doit avoir une idée d'où ça vient. Voilà. Et s'il a des soupçons, il lui revient de faire une déclaration de soupçon auprès d'un organisme qui s'appelle Tracfin, qui est hébergé au ministère des Finances, TRACFIN va regarder s'il y a effectivement lieu d'avoir des soupçons, et auquel cas, il remet la plainte, il fait suivre le dossier au parquet, donc à la justice. Alors, la faiblesse de ce dispositif anti-blanchiment, c'est d'abord qu'il faut que les banquiers fassent la déclaration de soupçons. Par le passé, ce n'a pas toujours été le cas. Deuxièmement, il faut que TRACFIN transmette au parquet. Or, TRACFIN est sous la tutelle du ministère des Finances. Et puis, troisièmement, il faut que le parquet ouvre une enquête, saisisse un juge d'instruction. Or, entre l'année 2000 et l'année 2011, tout s'était bien passé jusqu'au parquet, c'est-à-dire que des banques, Christie's aussi, qui avait mis aux enchères des tableaux de maître, etc., ont fait des déclarations de soupçons à propos des achats invraisemblables faits par Teodorino au Bank N'Gema. TRACFIN a transmis au parquet à 11 reprises, mais le parquet jamais n'a ouvert une information judiciaire. Quatrièmement, ce sont les politiques qui mettent des bâtons dans les roues. Manifestement, on sait pratiquement de sources sûres aujourd'hui que c'est le type d'affaires qui arrive sur le bureau du chef de l'État et que c'est à ce niveau-là qu'on cherche à ne pas trop déranger les chefs d'État amis ou avec lesquels on tente de maintenir des relations diplomatiques qui ne nuisent pas trop à nos intérêts économiques. Et on sait que dans des pays comme le Gabon ou le Congo-Brazzaville, les intérêts économiques français sont très importants et que certains des investisseurs les plus importants, que ce soit Total, Bolloré, Bouygues, etc., ont une oreille attentive de la part de l'exécutif. Alors, ce tableau, là aussi, pourrait mener à désespérer de la possibilité de lutter contre la corruption, mais moi, je crois, et je voudrais en finir par là, qu'il n'y a pas lieu de se résigner, et je voudrais souligner plusieurs aspects porteurs d'espoir dans cette affaire. La première chose, c'est que le droit, quand même, même s'il est insuffisant, c'est un outil extraordinaire. Que jamais il y a 5 ans, on n'aurait imaginé que le fils d'un chef d'État africain, en exercice, soit poursuivi pour des faits de corruption sur le sol français. La deuxième chose, c'est le rôle des magistrats. Parce que les juges d'instruction en particulier, ils font leur travail. Les policiers aussi ont fait leur travail d'investigation. Donc moi, je crois beaucoup au professionnalisme des juges, des magistrats qui ne sont pas soumis à la tutelle du pouvoir exécutif. Je crois beaucoup au professionnalisme des policiers qui sont dédiés à la lutte contre la délinquance économique. La troisième chose, c'est le rôle des médias. Le rôle des médias était tout à fait important dans cette affaire, puisqu'il a, en sortant cette affaire de l'anonymat, je pense qu'il a donné aussi une marge de manœuvre aux juges pour mener l'investigation. Et puis, un certain nombre de journalistes se sont emparés de l'affaire pour aller creuser un petit peu plus loin. Alors, on a Philippe Bernard, par exemple, Le Monde, qui a fait un travail énorme sur ce dossier. On a Xavier Harel, qui est journaliste anciennement à La Tribune, Thomas Hoffnung, qui est journaliste à Libération, qui ont sorti un livre, Le scandale des biens mal acquis, qui retrace toute cette affaire et qui l'amène un petit peu plus loin, parce que notamment, ils ont recueilli les confidences du directeur adjoint de cabinet d'Omar Bongo, qui explique que, après 2007, le financement des partis politiques, et en particulier celui de l'UMP, ont continué. Contrairement à ce qu'avait laissé entendre Robert Bourgi, vous vous souvenez, quand il a fait ses déclarations sur les mallettes en septembre dernier. Quatrièmement, je pense que le rôle de la société civile, des ONG, a été absolument crucial dans cette affaire, et en particulier des ONG qui osent porter plainte. C'est-à-dire que beaucoup d'ONG s'attaquent aux mécanismes d'un point de vue politique, d'un point de vue médiatique, mais là où le bât blesse et là où ça fait mal, c'est quand on utilise le droit. Et alors, moi, ça fait peu de temps que je suis au conseil d'administration de cette association qui s'appelle Sherpa, mais c'est un réseau de juristes qui s'est donné ce mode d'action pour mandat, pour vocation, pour mettre le droit au service d'un peu plus de justice dans la mondialisation économique. Je conclurai juste en disant que ce combat, donc, il n'est pas perdu. Le tout, c'est de comprendre, d'en comprendre la portée et d'en comprendre l'enjeu. L'enjeu, c'est le détournement de l'argent public au profit de quelques-uns. Et l'enjeu, c'est aussi la confiscation de nos démocraties, le contournement de nos lois par certains des acteurs les plus puissants de la mondialisation. Les paradis fiscaux, ça n'est rien d'autre que l'invention de lieux où on peut contourner les lois qui s'appliquent ici. Et le seul regret que je puis exprimer aujourd'hui, c'est que dans la campagne électorale aujourd'hui, je regrette que le sujet de la corruption, qui est une vraie menace pour nos démocraties, et le fait que ce soit pas la loi du plus fort qui s'impose, que ce sujet-là, il ne soit pas davantage porté par les différents candidats.
Merci beaucoup, Jean. Voilà, quelqu'un qui est content de votre intervention, mais il a raison. En tout cas, on peut effectivement être content de savoir qu'il n'y a pas lieu de se résigner et que on voit bien le rôle déterminant de différents acteurs, aussi bien magistrats, policiers, médias, ONG, pour avancer dans cette lutte contre la corruption, malgré les nombreux obstacles qui existent et que vous nous avez présentés. Alors, Tiphaine de Sachy, eh bien, comment une grande entreprise qui travaille à l'international s'en sort dans cet environnement-là, avec peut-être, certaines fois, la tentation de la corruption, en tout cas les risques de corruption dans ses transactions économiques?
Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, en préambule, je tiens d'abord à préciser que je m'exprime en mon nom personnel, exclusivement et en aucun cas au nom de l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, bien entendu, aucun des propos que je n'aurai ne pourra lui être attribué et je ne prononcerai pas son nom. Et donc, je vous remercie de votre compréhension. Alors, les entreprises n'ont jamais le beau rôle de ce côté-là. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui a pu être fait depuis quelques années. Donc, pour être... Pour resserrer le sujet et être en ligne avec ce qui a été dit par mes prédécesseurs, je vais me concentrer sur un aspect de la corruption, celle qu'on appelle la corruption d'agents publics à l'étranger. Donc globalement, on parle de la corruption directe ou indirecte via ces fameux intermédiaires dont les noms pullulent dans les journaux. Corruption à l'intention de fonctionnaires ayant généralement un pouvoir de décision dans l'attribution de marchés publics et à l'étranger et donc pour nous, entreprises, dans le cadre d'activités d'exportation. La corruption prend différentes formes. Elle est très souvent pécuniaire, mais elle peut prendre des formes multiples de faveurs, cadeaux, etc. Donc j'exclus délibérément ce qu'on appelle la corruption publique domestique, donc celle qui se passerait ici sur le sol français vis-à-vis de fonctionnaires français, et la corruption privée qui se joue entre acteurs privés. Alors je vais essayer d'articuler mon propos autour de trois points. Tout d'abord, vous donner quelques éléments de panorama juridique, puisque c'est un point absolument essentiel dans le sujet. Vous dire un peu ce qu'une entreprise comme celle dans laquelle je travaille a pu mettre en place depuis le début des années 2000. Et enfin, je tenterai de mettre quelques points en perspective en essayant d'être peut-être moins pessimiste que mes camarades, mais en tout cas de donner quelques clés. Alors, sur l'environnement juridique, en matière de prévention de la corruption dans les transactions internationales, le point qui, pour moi, est le plus essentiel est qu'on parle d'un droit extrêmement récent. Ça paraît un peu fou, mais on parle vraiment de quelque chose d'extrêmement récent, d'une quinzaine d'années pour la France. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, le montant des commissions versées à ces fameux intermédiaires à l'étranger, dont l'objet essentiel était la corruption, hein, sans se masquer les choses, était fiscalement déductible. Donc on allait à Bercy, sur un à l'époque c'était peut-être pas encore Bercy d'ailleurs, écrire les commissions qu'on versait et on en avait un avantage fiscal. C'était globalement un outil de politique visant à aider à l'exportation. Alors historiquement, le premier pays qui a réagi à la suite d'un énorme scandale, en général on n'agit pas sur ces lois pour la beauté du geste, ce sont les États-Unis qui en 77, donc il y a à peine 35 ans, ont voté une loi qui interdisait à leurs entreprises de corrompre des fonctionnaires, des agents publics à l'étranger. Alors les Américains ont assez vite compris qu'ils se tiraient une balle dans le pied s'ils étaient les seuls à poursuivre leurs entreprises qui pouvaient corrompre, et donc ont mis une pression extrêmement forte sur leurs confrères et essentiellement les États de l'OCDE. Et ce qui a mené 20 ans après, donc un petit peu long comme pression, mais 20 ans après, la signature de la convention OCDE. Donc en 97, donc là on parle vraiment d'il y a 15 ans, et là les pays membres de l'OCDE ont signé cette convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Ce qui signifiait que corrompre un agent public à l'étranger devenait un acte criminel, et que les États devaient mettre en œuvre un dispositif législatif, préventif et répressif sur le sujet. Donc la France a modifié en conséquence son code pénal avec la loi du 30 juin 2000. Donc ça fait 12 ans en France. Enfin, je pense que c'est important de voir à l'échelle de l'ensemble du commerce et de nos activités qu'on parle d'un droit extrêmement récent. Alors, la lutte contre la corruption par les États est devenue aussi un enjeu majeur, a été fortement aidée grâce ou à cause, en tout cas par un événement le 11 septembre 2001, où là, un certain nombre d'États ont mis les bouchées doubles pour lutter contre le terrorisme, ce qui a conduit à un renforcement des dispositifs contre de lutte contre le blanchiment d'argent, les paradis fiscaux et l'accroissement de la coopération judiciaire. Et tout ça, en fait, a pris des proportions assez importante et fait un dispositif qui certes est incomplet mais existe. Il y a d'autres instruments juridiques. Vous aviez mentionné la convention de l'ONU signée en 2003 et des tas d'autres conventions qui peuvent exister. Alors, ce qui convient de souligner en dehors du caractère récent, c'est que fondamentalement ces lois ou conventions s'adressent essentiellement à combattre ce qu'on appelle l'offre de corruption. Donc les entreprises qui versent des pots de vin. Le principe sous-jacent étant que si on assèche l'offre de corruption, on va tarir la demande, ce qui peut être un principe acceptable. Et en plus, il est quand même plus facile d'attaquer en justice des entreprises, qui sont des personnes morales privées, souvent sur le sol national, que des fonctionnaires étrangers. Donc ça, c'est un petit peu le paysage. Alors du côté des entreprises. Alors, l'entrée en vigueur de la convention OCDE et sa transposition en droit national a conduit vraiment les entreprises à prendre des mesures assez radicales pour se mettre en œuvre avec les nouvelles réglementations. Il y a d'abord eu, je pense, une période de stupeur et de se dire, bon, c'est très bien, mais moi, ça me concerne pas. Donc, il y a eu un temps de retard qui est classique pour un certain nombre de lois. Dès que les premières condamnations sont arrivées, notamment les États-Unis ont commencé à condamner extrêmement lourdement à partir des années 2005, les entreprises ont vraiment réfléchi et se sont dit, quand elles ont des activités multinationales, on n'a pas le choix, il faut y rentrer. Alors, la plupart des grandes entreprises multinationales, comme celle à laquelle j'appartiens, sont aujourd'hui pleinement engagées dans l'élimination du risque de corruption dans leurs transactions. Et vraiment le risque judiciaire a conduit à réfléchir autrement. Et pour vous donner un exemple, la loi américaine a un dispositif qu'on appelle d'extraterritorialité, ce qui fait que la justice américaine peut condamner une entreprise dès lors qu'un lien avec le territoire américain est prouvé. Donc vous pouvez être une entreprise allemande ayant corrompu au Costa Rica, passant par un intermédiaire, situé au Liechtenstein, et vous pouvez être condamné, enfin poursuivi par la justice américaine, voire condamné si certaines transactions ont eu lieu par des banques américaines. C'est quand même assez fréquent compte tenu de la suprématie du dollar. Donc le département de la justice américain s'est clairement pas privé d'infliger des amendes, et certaines littéralement considérables, à des entreprises non américaines. En 2010, le montant des amendes et sanctions prononcées par la justice américaine s'est élevé à 2 milliards de dollars, donc sur plusieurs entreprises. Et généralement, ils sanctionnent extrêmement lourdement financièrement les entreprises européennes et mettent en prison les dirigeants des entreprises américaines. Donc sur ce sujet-là, il y a un côté quand même très sérieux. Les juridictions européennes, qui elles-mêmes ont mis du temps à s'y mettre, à avoir des équipes formées sur le sujet, commencent à condamner les entreprises. Je pense à l'Allemagne en particulier. Alors pour les entreprises, le montant des amendes, les sanctions, les coûts de procédure, les coûts d'avocat qui sont absolument considérables, le risque sur d'image, le risque sur le prix, le cours de l'action, ont clairement vraiment incité les entreprises à se mettre en conformité. Et dans le même temps, elles sont passées d'une position avec une forme de déni à une forme de compréhension aussi du sujet, en comprenant que continuer à promouvoir des business models fondés sur la corruption finissait par tuer l'entreprise. Quand vous obtenez des marchés juste en échange de quelques valises de billets, votre motivation pour investir en innovation, investir en R&D, attirer les bonnes compétences, fournir des produits de bonne qualité, diminue, et à terme, vous avez un risque sur votre position concurrentielle. Donc aujourd'hui, la position de beaucoup de grandes entreprises, c'est que les affaires propres sont de bonnes affaires. Et elles deviennent très très actives dans beaucoup d'instances internationales qui promeuvent la lutte contre la corruption. Alors comme il a été dit en introduction, je suis chargée de développer un programme d'intégrité dont l'objet est de s'assurer que nos collaborateurs comprennent et suivent parfaitement les règles anti-corruption de l'entreprise. Je fais partie d'une entreprise qui est exposée clairement au risque de corruption publique à l'international par ses activités. Nous vendons des infrastructures, donc dans le cadre de gros projets. Notre périmètre géographique fait que nous sommes aujourd'hui présents dans 70 pays et pour beaucoup dans des conditions de gouvernance, on va dire faibles, pour être politiquement correct. Et notre clientèle est composée à plus de 50% d'entités publiques, qu'elles soient au plan national ou au plan local, enfin des équivalents des collectivités locales. Alors, un programme d'intégrité, c'est quoi ? En quelques mots, c'est fondamentalement ces 6 points sur lesquels on ne peut pas construire un programme sans ces 6 points. Le premier, et je pense que ça rejoint ce que vous disiez sur l'exemple, vient du haut. Le premier point d'un programme d'intégrité, c'est un engagement fort et sans ambiguïté, affirmé et réaffirmé régulièrement par la direction de l'entreprise, que ce soit au niveau du conseil d'administration ou au niveau des instances exécutives, d'une absence complète de tolérance vis-à-vis de la corruption. Et ce message a un impact extrêmement fort en interne et vaut valeur d'exemplarité. Après, on outille et on a un certain nombre d'éléments. Donc la première chose, c'est un code de conduite ou code d'éthique qui comporte un certain nombre de règles, pas uniquement sur le sujet, sur des tas d'autres sujets, mais dans lequel la question de l'interdiction de la corruption est clairement significative. On donne à nos collaborateurs des instructions très détaillées sur ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire en matière de cadeaux, en matière de conflits d'intérêts, en matière de financement d'activités politiques qui sont interdites, en matière de dons à des organisations caritatives qui peuvent être un réel véhicule de corruption, etc. On a une politique d'une rigueur très très forte sur la question des intermédiaires commerciaux, puisque nous travaillons avec des intermédiaires commerciaux. En revanche, il est hors de question de prendre le moindre risque et en tout cas pour nous, absolument évident que nous travaillons avec des gens à qui nous pouvons faire confiance, dont les niveaux de rémunération ne permettent pas la corruption. Après, nous avons évidemment un dispositif de formation, que ce soit de la formation en ligne, de la formation présentielle, et des actions de communication constantes. Alors, pour une entreprise, mettre en place un tel dispositif, ça a un coût, ça mobilise de nombreuses ressources, et ça s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser qu'on change en un clin d'œil des habitudes de travail. Et aujourd'hui, encore, on n'est pas forcément à l'abri de comportements individuels qui enfreindraient ces règles, ce qui mettrait l'entreprise dans une situation extrêmement difficile. Et donc, on a vraiment un travail constant sur le sujet. Ça suppose aussi pour l'entreprise de réels choix stratégiques. Et il a pu arriver que nous refusions certains marchés extrêmement significatifs. Je parle de plusieurs de dizaines, de centaines de millions d'euros, en raison de soupçons de corruption. Et prendre ce type de décision, c'est aussi prendre la décision de ne pas faire de croissance à ce moment-là, de ne pas nourrir nos usines, de ne pas donner du travail à un certain nombre de personnes. Donc c'est engageant. En revanche, c'est uniquement au prix de ces décisions qu'on pourra continuer d'avancer. Donc si les entreprises... d'une manière générale, les entreprises occidentales, celles qui sont exposées au risque, ont globalement engagé des actions dans cette direction. Il est clair que nous avons encore beaucoup de progrès à faire, mais la dynamique est là. Alors, pour conclure un peu sur quelques perspectives et ouvrir un petit peu le débat, je dirais que agir sur la partie offre de corruption en pénalisant les entreprises est certainement un moyen efficace, et qui, je pense, était indispensable. En revanche, clairement, après plus d'une décennie de lutte contre la corruption, on peut observer que le phénomène n'est clairement pas éradiqué. La demande de corruption reste extrêmement forte et l'offre a changé de visage. Donc je pense qu'on arrive à un moment de plateau où il s'agit de repenser la lutte contre la corruption. Alors, quelques points. Quand ils ont signé la convention OCDE, la convention des pays de l'OCDE représentait environ 80% du commerce mondial. Donc agir sur les entreprises qui représentaient 80% du commerce mondial avait un sens. Aujourd'hui, les membres de l'OCDE, ça doit être à peu près 50% du commerce mondial. Donc les grands pays exportateurs aujourd'hui sont les pays émergents, les BRICS en première file, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et les entreprises de ces pays ne sont pas soumises aux mêmes règles. Et même si on commence à avoir quelques balbutiements, elles bénéficient aujourd'hui d'un avantage concurrentiel qui fait qu'elles peuvent tout à fait arroser un certain nombre de fonctionnaires à l'étranger, alors que nous ne pouvons pas le faire. Alors, est-ce qu'on doit attendre que nos entreprises finissent par mettre la clé sous la porte face à une concurrence déloyale? Je pense que c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on peut inciter encore et encore toutes les entreprises, y compris encore certaines entreprises occidentales, à respecter ces règles? Et les entreprises qui sont vraiment engagées dans la lutte contre la corruption, est-ce qu'on pourrait imaginer des mécanismes pour qu'elles puissent être favorisées, c'est-à-dire qu'elles bénéficient d'un premium, notamment dans le cadre d'appels d'offres publiques, pour ne pas être pénalisé par les coûts d'un côté engagé et l'absence d'ouverture de marché. Après, en deuxième point, je dirais que dans certains pays, la demande de corruption reste extrêmement élevée. Les sollicitations de la part d'agents publics sont permanentes et minent l'activité quotidienne des entreprises. Les hommes politiques de ces pays ont besoin de financer leurs activités, sont à la tête de pays qui volontairement sous-payent leurs fonctionnaires sont généralement assez préoccupés par leur situation personnelle plus que par le bien-être de leur population. Et la première source, ça reste les entreprises, et fondamentalement les pots de vin, c'est une forme de taxe déguisée pour ces pays. Alors comment inciter ces pays en développement à combattre réellement la corruption, à mettre en œuvre leurs engagements? Ils ont généralement signé la Convention des Nations Unies. Et comment éviter aussi que les entreprises, avoir des stratégies de résistance? On en met en œuvre, on en conseille, mais c'est quand même un travail où vous remettez l'ouvrage littéralement chaque minute sur le sujet. Et donc comment éviter que la pression de ces sollicitations diminue? Après, troisième point, certaines entreprises sont condamnées lourdement pour des faits datant parfois de plus de 10 ans, du début des lois en fait. Alors 10 ans pour une entreprise, c'est souvent un siècle, surtout quand entre-temps elle a changé. Donc comment condamner plus rapidement les entreprises qui continuent à ne pas jouer le jeu, et comment aussi s'assurer que certaines condamnations puissent porter sur les États et les fonctionnaires receveurs des pots de vin, et donc pas uniquement sur la question de l'offre. Donc on sait que la question de la souveraineté des États est en jeu, mais ça reste quand même une vraie question. Ce qui mène au quatrième point, nos pays occidentaux sont souvent et demeurent, malgré la crise, des bailleurs de fonds importants via des instruments tels que la Banque mondiale, l'Agence française de développement pour ce qui nous concerne, et qui prêtent des fonds à des pays pour des projets. Et ces pays sont notoirement corrompus et vont favoriser les entreprises corruptrices. Alors, comment, d'une part, s'assurer que ces organismes internationaux que nous finançons aient un discours sans ambiguïté? Aujourd'hui, leur discours comporte encore beaucoup de zones d'ambiguïté, nous expliquant que nous devons être irréprochables, mais que c'est normal qu'ils puissent prêter aussi à n'importe quel type d'État parce qu'ils doivent faire du business. Et comment conditionner l'aide au développement à l'absence de corruption? La question n'est pas simple non plus, parce que l'aide au développement, la question reste compliquée. Et enfin, nos pays et nos gouvernements ont encore d'importants progrès à faire dans ce domaine, donc je ne reviendrai pas sur le sujet qui a été évoqué tout à l'heure, mais on peut soulever l'absence des moyens donnés aux autorités de police et de justice pour réellement enquêter donc, et condamner. Donc avons-nous, nous aussi, une réelle volonté de lutter contre la corruption? Donc en bref, je crois que sur ce sujet, si tous les acteurs ne se mobilisent pas, et ce sans double langage, il n'y a aucune raison pour que la situation évolue significativement. Donc je voudrais quand même conclure sur une note plus positive, et je crois que certains progrès sont possibles, et on voit quand même des signaux tout à fait positifs. Les opinions publiques commencent vraiment à se mobiliser. Les pays du G20 mettent ce sujet à l'ordre du jour. Et arriver à avoir un sujet à l'ordre du jour au G20, c'est beaucoup, beaucoup de réunions préparatoires pour que ce soit pris au sérieux. Et la déclaration de Cannes, enfin, à la suite du dernier G20, comportait ce sujet. La Russie vient de rejoindre l'OCDE, ce qui veut dire qu'elle ratifie et qu'elle modifie son dispositif juridique pour être en conformité avec la convention OCDE. La Chine, depuis mai 2011, criminalise la corruption d'agents publics étrangers. Donc c'est les balbutiements, encore un petit peu de temps, mais en tout cas ça se met en place. Les pays émergents commencent à, comme l'Inde, à sentir que les investissements étrangers, à un moment ou un autre, les pays très corrompus sont moins attractifs en termes d'investissements étrangers que d'autres. Donc eux-mêmes sont en concurrence là-dessus. Beaucoup de partenariats entreprises, gouvernements et sociétés civiles se mettent en place, et certaines associations qui ont été mentionnées ce soir font aussi travail avec les entreprises sur le sujet. Et on a des partenariats qui sont sous l'égide de l'OCDE ou de l'ONU. Des actions collectives se mettent en place localement, notamment dans les États dont la gouvernance est faible. De plus en plus de professionnels sont formés sur le sujet, etc. Donc je crois qu'on est en train de passer d'une période qui comportait une certaine dose d'idéalisme, qui était certes nécessaire pour démarrer, à une approche qui devient plus réaliste et concertée, et qui, je pense, peut commencer pour apporter ses fruits à l'avenir. Je vous remercie.
Merci beaucoup Tiphaine de cette présentation très claire. Je crois que c'était très appréciable pour nous d'avoir le panorama juridique, se rendre compte de l'évolution finalement récente du droit de lutte contre la corruption, et puis tout ce travail sûrement différent selon les entreprises, l'action des entreprises. Peut-être essayer de faire comprendre, je retiens cette phrase, que les affaires propres sont de bonnes affaires. Alors il faut sans doute beaucoup de temps, comme vous l'avez dit, pour que vraiment toutes les entreprises puissent en être véritablement convaincues. Et puis de dire qu'on est peut-être maintenant à une nouvelle étape, qu'il faut passer un nouveau seuil dans la lutte contre la corruption, passer un petit peu peut-être d'un idéalisme du départ à un certain réalisme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions en suspens que nous allons sûrement retrouver maintenant dans le débat. Ce débat qui va durer une bonne demi-heure environ. C'est formidable d'avoir des intervenants qui ont respecté leur temps de parole. Ce n'est pas toujours le cas, et donc cela nous laisse un bon moment de débat. Donc on va prendre, comme nous en avons l'habitude, une première cueillette de deux ou trois questions, réactions, convictions, et on redonnera la parole à nos intervenants. Voilà, n'hésitez pas à lever bien haut la main. Voilà, alors on va commencer par monsieur. Levez bien la main, monsieur, pour qu'on vous voit bien. Voilà, sur la droite.
Oh, un petit témoignage modeste. J'étais en mission à Djibouti et pour l'éducation nationale, et les professeurs m'ont dit, tiens, c'est bizarre, la base américaine que les Américains ont montée à Djibouti sous couvert de lutte antiterroriste, qui est distinct de la base française, eh bien, les revenus de la location ne sont pas au budget de l'État. Et un de ses collègues a rajouté, le prix du mètre carré sur les Champs-Élysées va encore augmenter. Alors, c'est simplement une petite anecdote, comme quoi je me demande quel rôle les États-Unis, qui ont fait pression sur les entreprises, sont pas non plus à l'abri du point de vue de leur politique publique, au moins d'une connivence à la corruption, par exemple pour louer des bases. Mais la question que je voulais poser, elle pose davantage sur la corruption à tous les niveaux. Est-ce qu'il est facile à un pays d'échapper à la corruption quand l'exemple vient d'en haut? Mais aussi touche tout le monde, puisque le policier mexicain qui tend la main pour autoriser un automobiliste à tourner à droite ou à gauche dans une avenue à Mexico, ou le policier marocain qui prend un cajot de fruits sur le camion qu'il a arrêté pour quelque infraction mineure.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question un peu plus haut en montant, sur la droite également.
Oui, je voudrais poser une question à M. Eric Halt. Vous avez évoqué tout à l'heure les mafias. Est-ce que vous pourriez en dire davantage sur l'influence et l'action de ces mafias? Merci.
Voilà, on va continuer le micro, voilà, au milieu.
Oui, bonsoir. Je voulais simplement revenir avec l'histoire des biens mal acquis en posant une question peut-être naïve. L'association Transparence, enfin l'organisation Transparence est je crois, domiciliée aux États-Unis. Or, la plainte qu'elle a déposée touche des pays du précaré français, exportateurs de pétrole, et très très important dans l'approvisionnement, pour nous en tout cas, de pétrole. Est-ce que je ne crois pas que Paul Biya, qui est à la tête du Cameroun depuis 1982, fasse partie de la cohorte des gens qui sont poursuivis, et pourtant je pense qu'il aurait de quoi alimenter aussi les chroniques judiciaires. Ça, c'est la première question. Et le deuxième point, c'était que on s'aperçoit que l'Europe a des grandes difficultés économiques, notamment parce qu'elle n'a pas tenu compte du dumping social, du dumping fiscal, notamment orchestré par la Chine. Que la Chine ait criminalisé la corruption des agents publics à l'étranger depuis même 2011, je crois que c'est plus un effet d'annonce que quelque chose de réel. Je crois pouvoir en parler en connaissance de cause. Donc, va-t-on continuer en Europe donner une image propre au monde, alors que les autres pays, des grands pays qui ne sont pas forcément émergents, mais de grandes puissances comme la Chine, c'est pas un pays émergent, font ce qu'ils veulent, ou pratiquement ce qu'ils veulent.
Merci. Alors, j'ai bien repéré qu'il y avait d'autres questions en attente. On va d'abord essayer de répondre à ces trois premières questions, et puis on reviendra ensuite pour une deuxième collecte. Alors, une question peut-être sur les mafias. Eric Halt.
Alors, aujourd'hui, en même temps que cette conférence a lieu à Sciences Po, une journée sur les mafias, organisée par l'Observatoire géopolitique des criminalités, et je sais que le message de cette journée est celui que je vous ai relaté, à savoir que la mafia n'est pas seulement un phénomène historique ou un phénomène localisé à l'Italie. Alors, c'est un problème qui est tangentiel par rapport au mien, parce que la mafia utilise la corruption, elle utilise aussi beaucoup d'autres moyens pour asseoir son pouvoir, et c'est sûr qu'on voit en Bulgarie et en Grèce des phénomènes mafieux, c'est-à-dire des phénomènes de criminalité organisée avec des liens avec le pouvoir, parce que ce qui caractérise la mafia par rapport à la criminalité organisée, c'est que la mafia a des liens plus ou moins ambigus avec le pouvoir légal. Voilà, donc et il y a eu en Allemagne, à Duisbourg, il y a de cela 2 ans, un règlement de compte très spectaculaire et très meurtrier, attribué à la mafia, clairement, les preuves existaient. Et donc c'est un indicateur d'alerte, parce qu'en général, lorsque les mafias vont dans les pays du Nord, elles évitent ce genre de choses, mais ces pratiques typiquement mafieuses, elles ont lieu en Allemagne. Donc là, il y a eu un indicateur d'alerte qui a beaucoup frappé la police, enfin ceux qui se préoccupent de la criminalité en Allemagne, parce qu'ils jugeaient que jusqu'à présent, l'Allemagne était indemne de ce phénomène. Et donc les phénomènes de carrousel à la TVA dont je vous parlais, les phénomènes de fraude à la taxe carbone, ce sont typiquement des phénomènes de criminalité organisée. Ce ne sont pas des individus intelligents qui se mettent derrière Internet. Ce sont typiquement des phénomènes de criminalité organisée. Et un certain nombre d'entre eux révèlent que les mafieux... Enfin, je ne veux pas entrer dans le détail, encore une fois, parce que ce serait très long. Et
enfin, une autre soirée
sont plus,
sur la
sont
mafia.
Plus spécialisés que moi, mais ce sont des indicateurs. On a beaucoup d'indicateurs d'alerte, et je pense que c'est ça à quoi il faut s'en tenir aujourd'hui, des indicateurs d'alerte.
Merci. Alors, essayons peut-être de revenir sur les biens mal acquis.
Alors, pourquoi est-ce que Paul Biya n'est pas poursuivi? La première chose, c'est qu'en 2007, quand on a fait notre inventaire sur une trentaine de chefs d'État, on avait peu d'informations sur Paul Biya, qui était à la tête du Cameroun. Et donc, on n'a rien écrit à ce moment-là. J'étais au Cameroun début 2009, et j'étais interviewé par plein de radios, etc., au Cameroun, qui m'ont dit « Mais combien il vous a payé, Paul Biya, pour ne pas le mettre dans le rapport, etc. » Et bon, on a poussé l'investigation un peu plus loin, on a écrit un chapitre sur le sujet, mais le fait est que les informations dont on dispose sur son patrimoine sur le sol français sont quand même bien moins fortes, probantes que concernant les autres familles. Cela dit, plusieurs associations camerounaises s'en ont quand même saisi pour porter plainte à Paris, mais ce sont des plaintes qui ont été classées sans suite pour l'instant par le parquet. Voilà. Maintenant, est-ce que Transparence internationale est l'outil de l'oncle Sam pour avoir la peau des intérêts français en Afrique? Bon, Transparence internationale a été fondée en Allemagne en 1993 par quelqu'un qui s'appelle Peter Eigen. Alors, Transparence internationale, c'est une association qui est présente dans tout plein de pays. Moi, je ne donnerai pas le bon Dieu sans confession, excusez-moi l'expression, mais... Ah. Peut-être quand on parle de Dieu, ça...
Ici, c'est habituel. C'est habituel.
À toutes les antennes de Transparence internationale, parce qu'il y a des vrais enjeux de pouvoir dans un certain nombre de pays, et je pense par exemple au Cameroun, où des gens proches du pouvoir ont voulu prendre la tête de Transparence internationale pour donner un gage de bonne conduite au pouvoir. Maintenant, l'action qu'ils ont menée en France, et on connaît bien Daniel Lebec qui est à la tête de Transparence internationale France, qui est un ancien directeur du Trésor, ancien directeur de la Caisse des dépôts et consignations, qui est le président de l'Institut français des administrateurs, donc il est très introduit auprès de tous les administrateurs du CAC 40, etc. Je ne pense pas qu'on puisse le taxer de vouloir en finir avec les intérêts économiques de la France. Au contraire, je pense que chez un certain nombre de dirigeants économiques en France, ils perçoivent la France-Afrique, pour aller vite, et le soutien qui est accordé par les dirigeants français à un certain nombre de dictateurs africains comme contre-productif à long terme pour les intérêts économiques de la France. Parce que dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui, il y a un sentiment anti-français qui est extrêmement développé et qui nuit déjà et qui nuira encore à l'obtention de marchés publics par des entreprises françaises. Un dernier mot sur les États-Unis. Ils ne sont pas restés les bras croisés sur l'affaire Obiang, par exemple, puisqu'ils ont été beaucoup plus vite que nous pour s'attaquer à des villas de plusieurs de dizaines de millions de dollars que s'était acheté le fils Obiang à Malibu, par exemple. Et j'en profite pour dire qu'aux États-Unis, ils ont quand même quelque chose de beaucoup mieux que nous, c'est le pouvoir dont sont dotés les parlementaires. Il faut se rendre compte que les sénateurs américains ont des pouvoirs d'investigation, de recherche, des moyens financiers absolument colossaux par rapport à nos pauvres députés et sénateurs qui ont un malheureux attaché parlementaire. Mais ça permet à certains sénateurs, comme Carl Levin, qui est le plus en pointe sur ces questions d'argent illicite, d'avoir des rapports d'enquête sur les paradis fiscaux, sur la fraude des grandes entreprises, sur la fraude d'un certain nombre de dirigeants, qui sont des vraies bases pour mener ensuite des enquêtes de justice.
Un mot sur l'Europe, peut-être, Tiffany?
Oui, alors, pour reprendre un peu cette question, moi, je vous suis parfaitement, monsieur, quand vous dites ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Europe met en place des standards extrêmement importants en matière de droits de l'homme, hein, le travail des enfants, etc., en matière d'environnement, de droits sociaux et ces sujets-là. Je crois qu'il n'est pas question de revenir sur ces standards. Franchement, ce serait vraiment un recul. En revanche, il faut que l'Europe aussi arrête d'être naïve et arrête de contribuer, par exemple, par la Banque européenne de développement d'une part ou d'autre part dans le cadre de ses appels d'offres, de laisser concourir sur les mêmes bases des entreprises qui parfois viennent d'Europe de l'Est et qui n'appliquent pas les mêmes standards vis-à-vis d'entreprises européennes, occidentales qui appliquent ces standards. Je crois que c'est beaucoup plus de ce côté-là, c'est tout l'enjeu de la réciprocité qui est un enjeu absolument critique qui fait que c'est ça qui est extrêmement poussé aujourd'hui par les chefs d'entreprise qui disent nous on veut bien respecter ces standards, c'est bon, on est dedans. Mais on veut bien être en concurrence avec d'autres, mais sur des rationnels économiques, la qualité, le prix, l'offre, enfin, des éléments purement créateurs de valeur et pas sur des éléments qui finalement tordent la concurrence. Donc, je peux que vous suivre sur ce sujet.
Oui, j'ajoute par rapport à la personne qui s'inquiète des atteintes aux intérêts économiques français qui résulteraient de l'application de la Convention OCDE et de Transparency International qui milite pour cette application, que la montée en puissance est très, très progressive. Depuis que la France a adopté la convention CDE et l'a transposée en droit interne, il y a deux affaires qui ont donné lieu à des condamnations. Un tout petit peu plus dans les pays alentours, mais c'est quand même une montée en puissance progressive. Alors, je ne dis pas, ça peut aussi être la conséquence d'entreprises qui se conduisent mieux, mais c'est vraiment pas un contentieux de masse.
Alors, il y avait une question transversale qui pour laquelle tous nos intervenants peuvent essayer de répondre. C'est finalement, est-il possible d'échapper à la corruption quand ça touche tous les niveaux d'un pays? Comment?
Il n'y a pas une réponse facile. Hein.
Ah ben non.
S'il y avait une réponse facile,
ça se saurait.
Tout le monde se serait précipité pour répondre. Il y a quand même des exemples. Au Brésil, par exemple, alors c'est sur des échelles de collectivités territoriales, mais il y a une exemplarité à avoir dans la lutte contre la corruption. Je pense que ce qui fait le lit de la corruption, c'est l'impunité. Quand on commence à avoir un fonctionnaire qui est destitué de sa fonction, quand on commence à avoir un dirigeant d'entreprise qui est menacé de finir derrière les barreaux. On se souvient en France, alors c'est peut-être pas le pays gangréné par la corruption dont vous parliez, mais en 2002, les banques ont soudainement pris conscience de la nécessité de mettre en place des processus de contrôle d'où venait l'argent, et donc d'appliquer les lois anti-blanchiment, quand Daniel Bouton, à la tête de la Société Générale à l'époque, a failli finir derrière les barreaux pour une affaire de chèques, l'affaire dite du Sentier, de chèques qui venaient d'Israël et qui manifestement provenaient d'activités illicites. C'est à ce moment-là que les banques françaises ont opéré un vrai tournant, et depuis, vous avez des bataillons entiers dans chacune des banques françaises qui sont chargés de veiller, en principe en tout cas, à ce que la provenance des fonds soit l'objet d'une beaucoup plus grande vigilance.
Alors peut-être du côté des entreprises, nous travaillons dans des pays où effectivement, en permanence, la sollicitation, que ça peut être d'un petit fonctionnaire comme d'un haut fonctionnaire. Alors je vais vous donner deux exemples. La société précédente dans laquelle je travaillais, je l'ai appris au cours de mes nouvelles fonctions, avait mis en place un pays d'Afrique où en fait c'était des produits miniers, qui donc était acheminé depuis les mines, généralement c'est assez éloigné des ports, et donc il y avait les camions transportant le minerai étaient arrêtés à peu près toutes les 5 minutes par les policiers qui prenaient leur écho au passage. Et en fait, ce qu'a fait l'entreprise pour lutter contre ça, c'est qu'elle a formé ses chauffeurs, c'est-à-dire d'abord tous les papiers du véhicule étaient en règle. Première chose. Donc tous les documents étaient parfaitement répertoriés, chaque chauffeur avait tout avec lui, avait une version du code d'éthique, avait un mot du directeur général lui disant qu'il n'avait pas l'autorisation de payer et que en cas de demande réitérée, il devait en référer, enfin bon, tout un truc extrêmement outillé. Les camions étaient très clairement identifiés, donc le nom de l'entreprise apparaissait. Et le fonctionnaire qui commence à avoir quelqu'un qui commence, enfin le policier local qui commence à négocier, à marchander son truc une fois, deux fois, il finit par laisser tomber parce qu'il perd du temps et il va gagner du temps en allant racketter quelqu'un d'autre. Et il y a vraiment des entreprises qui... C'est assez basique, alors ça se situe qu'au niveau de l'entreprise, mais il y a vraiment des entreprises qui ont mis en place des stratégies de résistance, ça s'appelle des stratégies de résistance, il y a beaucoup d'outils sur ce sujet-là qui permettent de dire non. Il y a un petit film qui est très très bien fait par les Nations Unies sur le sujet. Donc ça c'est un premier exemple. Il y a aussi un autre exemple où le droit douanier est quand même généralement une belle porte d'entrée pour la corruption. Ils sont généralement rédigés de telle sorte que vous ne pouvez pas être en règle. Donc vous ne pouvez pas dédouaner les biens que vous exportez, qui sont importés dans le pays. Et dans un pays d'Amérique du Sud, je ne me rappelle plus lequel, les quelques grandes multinationales qui n'en pouvaient plus de passer leur temps aux douanes et passer leur temps à payer, ayant une certaine puissance, parce que quelques grosses entreprises multinationales dans un État, ça peut avoir une certaine puissance, sont allées voir les parlementaires, leur ont expliqué la situation, et je crois qu'aujourd'hui, ce pays bénéficie d'une des lois les plus limpides, les plus claires en matière de droits douaniers, qui fait qu'il n'y a plus de marge de manœuvre pour les fonctionnaires qui localement appliquent pour racketter les entreprises. Donc c'est des gouttes d'eau dans l'océan, hein. C'est pas comme ça qu'on change fondamentalement des mécanismes enracinés, mais je crois que c'est aussi avec ce type d'action qu'on peut faire avancer les choses.
Eric Hall. Oui, la question est toujours de savoir quel est le seuil à partir duquel une société devient tolérante à la corruption. À partir de quel moment le poids économique, la captation de la décision publique, la captation de la richesse devient intolérable. Et ça, c'est très différent selon les sociétés, selon les circonstances. Ça passe parfois par des actes irrationnels ou héroïques. C'est un suicide par le feu en Tunisie, mais ce sont aussi des restaurateurs qui, en Sicile, à Palerme, ont décidé de ne plus payer le pizzo. Et c'est vrai que les premiers, c'était très dangereux pour eux. Ils ont dû avoir le concours de la police, et puis finalement, ce mouvement s'est étendu. Et puis, ils ont trouvé des ressorts dans la société civile, et c'est cette même société civile italienne qui a fait adopter un projet de loi qui permet la restitution à la société civile de biens mafieux, d'avoir criminels mafieux, parce qu'on se rendait compte que c'était un tonneau des Danaïdes, les biens mafieux étaient saisis, ils étaient revendus par l'équivalent des domaines publics, mais c'était des prête-noms, des hommes de paille qui reprenaient ces biens. Donc il y a un certain nombre de mécanismes juridiques qui ont été mis en place de cette façon par la société civile qui a résisté. Au Brésil, le fait qu'il y ait des hommes politiques corrompus qui se faisaient réélire par le biais du clientélisme est devenu intolérable à un certain moment. Il y a une pétition qui a été lancée. Cette pétition a donné lieu à l'adoption d'une loi, adoptée à l'unanimité d'ailleurs. Et désormais, c'est la loi fiche propre, donc casier judiciaire vierge, si on veut traduire en français. Et donc désormais, les hommes politiques, les candidats aux élections politiques au Brésil, doivent présenter un casier judiciaire vierge comme les fonctionnaires. Et ainsi, donc on pourrait... C'est toute la quatrième partie de mon livre. Il y a de très nombreux exemples de résistance dans la société civile qui permettent de penser que chacun imagine... les sociétés imaginent les solutions par rapport à un rapport de force, de pouvoir, pour remédier à ça. Et puis prendre les armes du droit dans toute société où il y a la possibilité de faire jouer ces armes, ce n'est pas le cas partout, mais c'est aussi une solution parfois performante.
Merci. Alors nous reprenons quelques questions. Je crois que voilà, il y en avait une. Alors mademoiselle a le micro qui est tout près d'elle, mais je vous promets qu'on ne vous oublie pas. Allez-y.
Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé du parquet comme une charnière permettant de filtrer, enfin comme un filtre des affaires qui étaient un petit peu embêtantes. Dans quelle mesure une réforme du statut du parquet serait-elle une solution pour lutter contre la corruption ?
Merci. Alors, on va continuer à faire passer le micro de l'autre côté. Levez bien la main, monsieur. Merci.
Madame, pourriez-vous, s'il vous plaît, compléter votre tableau très intéressant parce que vous pensez des récentes dispositions prises par les Britanniques dans ce domaine.
Et les dernières dispositions prises par les Britanniques. Voilà. Alors, je crois qu'il y avait aussi une question devant. Voilà, levez bien la main. Le micro est juste là.
Bon passage, madame parlait de... Peut-il avoir l'aide aux pays en développement sans corruption? Bon, que c'est un gros dossier qu'elle ne voulait pas aborder. Je voudrais qu'elle donne quelques éléments significatifs.
Question très facile. Alors, on va peut-être commencer par le rôle du parquet, ce qui vous laissera le temps peut-être.
Oui, je vous ai dit tout à l'heure, le parquet est en état de coma dépassé. Autrement dit, même la Cour européenne des droits de l'homme dit que le parquet n'est plus une autorité judiciaire, car pour être une autorité judiciaire, il devrait avoir un minimum d'autonomie, ce qui n'est plus le cas en France. J'aurais aussi pu vous dire que c'est une situation française extraordinairement singulière en Europe, la plus proche qui peut être comparable à la situation française, c'est celle du parquet russe. Alors, comment fonctionne le parquet russe? Extraordinairement performant pour lutter contre l'opposition et extraordinairement laxiste pour lutter contre la criminalité des gens proches du pouvoir. Et ce n'est pas le cas dans les pays voisins. Alors en Italie, c'est tout à fait emblématique, mais si l'Italie a réussi l'opération main propre, si l'Italie a réussi à demeurer un état de droit malgré les assauts répétés de Berlusconi, c'est aussi parce que le parquet a une indépendance totale et un statut comparable à celui du magistrat du siège. En Espagne, il y a de gros problèmes de corruption, et à la suite de ces gros problèmes, ils ont décidé d'avoir un procureur général de la nation avec un devoir d'impartialité et l'obligation de légalité des poursuites, c'est-à-dire l'obligation de poursuivre des infractions dès lors qu'ils en ont connaissance. Même en Grande-Bretagne, où il y a un Serious Fraud Office, ce Serious Fraud Office le Crown Prosecution Service, qui lui-même dirige les policiers du Serious Fraud Office, mais le service des poursuites de la couronne, qui est composé d'avocats, mais il a un certain nombre de garanties d'indépendance. En Allemagne, où le statut du parquet peut être comparé d'un point de vue formel au statut du parquet français, il y a la légalité des poursuites. C'est très différent du parquet français où il y a l'opportunité des poursuites, donc l'égalité des poursuites, obligation de poursuivre, puis c'est aussi tempéré par le fait qu'il y a à la fois un parquet dans chaque land et un parquet fédéral. C'est une situation très singulière et effectivement, le minimum, parce que c'est effectivement, il n'y a pas de panacée, on ne peut pas dire on réforme le statut du parquet, il n'y aura plus de corruption. Mais c'est vrai que le point extraordinairement sensible en France, c'est le statut du parquet. Ensuite, il faut s'interroger sur la façon dont les nominations sont faites. Il faut s'interroger sur le rapport de la police à la justice. C'est vrai que c'est très important. En Italie aussi, dans chaque juridiction, il y a un certain nombre d'officiers de police judiciaire qui sont indépendants de la police et qui travaillent uniquement sur les affaires, généralement les affaires sensibles, et dont travaillent sous les seuls ordres des magistrats. Donc, il faut toujours penser un système, mais c'est vrai qu'aujourd'hui en France, je crois que nous arrivons au bout de la déréliction de ce système de poursuite et il faudra effectivement totalement le repenser.
Merci. Peut-être il y avait une question sur la Grande-Bretagne, peut-être une question d'actualité sur les dernières évolutions qui viennent de là-bas.
Oui, alors rapidement, en fait, l'Angleterre a mis en œuvre une loi très récente, ce qui s'appelle le UK Bribery Act, donc 2010, et dont la mise en application a démarré au 1er juillet 2011. Alors, les Anglais sont quand même des champions en matière de communication, puisqu'ayant signé la convention OCDE en 97, ils sont extrêmement fiers d'avoir une des plus belles lois du monde en 2010-2011. Ils ont quand même mis 14 ans à l'affaire, alors qu'ils étaient censés se mettre en règle beaucoup plus tôt. Et en fait, il a fallu le scandale BAE System pour, où là, le droit, enfin, un certain nombre de c'était une affaire assez compliquée, mais en tout cas, le pouvoir ayant voulu la stopper, ils ont été obligés de faire marche arrière et donc d'avoir cette loi. Alors, cette loi, fondamentalement, effectivement, est forcément une des plus modernes, puisqu'elle bénéficie de toutes les avancées. Elle est globalement calquée sur la loi américaine, avec un principe d'extraterritorialité extrêmement fort. Et après, elle a quelques différences, mais fondamentalement, c'est un peu la même. Alors, ce qui est très intéressant dans ces principes d'extraterritorialité, c'est que vous pouvez condamner les entreprises étrangères. Et ça, je crois que c'est... Enfin, moi, je suis toujours quand même un peu étonnée, là, je vais parler en tant que citoyenne, et pas uniquement en tant que représentant d'une entreprise, mais de penser que notre justice française, qui a quand même cette loi depuis 2000, péniblement, a pas beaucoup d'affaires de corruption d'agents publics étrangers, et se prive de la possibilité de condamner aussi d'autres entreprises. C'est aussi un outil économique. Et c'est ce que les Américains font très bien, c'est ce que les Anglais ont décidé de faire. Et je pense que c'est aussi en faisant la police chez les autres que finalement, on finit par se mettre en règle chez soi. Et voilà. Mais enfin, en tout cas, les Anglais ont réussi à faire un coup médiatique absolument magistral, parce que tous les avocats de la place vous vendent des tas de programmes pour être en conformité avec cette loi, alors que les entreprises françaises sont censées l'être depuis la loi française. Donc, mais fondamentalement, il n'y a rien de très, très novateur.
Alors, il y avait une question sur l'aide au développement et la corruption, qui est une question qui n'est pas très facile. Je ne sais pas si Jean peut donner quelques éléments.
Ce n'est pas une question facile. Maintenant, il y a quand même des progrès là aussi. Enfin, je pense que Tiffany Nosachi a eu raison tout à l'heure de resituer dans la longue durée la lutte contre la corruption. Je pense que le paysage n'était pas du tout le même il y a 30 ans. Depuis, on a eu les dispositifs anti-blanchiment depuis la fin des années 80, la législation de l'OCDE en 97, la Convention des Nations Unies en 2003. Donc, il y a là des évolutions marquées. Et quand on regarde le rôle de la Banque mondiale, par exemple, qui pendant des décennies a soutenu mordicus un certain nombre de régimes dont le niveau de corruption était connu de tous. Alors, on n'est pas encore dans un schéma absolument parfait, mais la Banque mondiale exclut de ses financements et de ses marchés un certain nombre d'entreprises dès lors qu'elles ont été condamnées pour des faits de corruption. C'est le cas aussi de la Banque interaméricaine de développement, de la Banque africaine de développement. C'est pas toujours le cas de la Banque européenne d'investissement, donc l'Europe n'est pas toujours en pointe sur le sujet. Maintenant, il faut se méfier quand on veut conditionner l'aide à l'absence de corruption. Déjà, c'est pas évident à mesurer. Et puis, qui en est victime derrière ? Le Togo, pendant plusieurs années, a été privé d'aide internationale. Ceux qui en ont le plus souffert, ce sont les populations, pas tellement le pouvoir en place. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut pas conditionner l'aide, mais en tout cas, c'est sans doute pas tout ou rien. Et d'ailleurs, l'Union européenne, dans ses mécanismes d'aide, avance maintenant par paliers. Il fixe des conventions qui fixent des objectifs en matière de transparence budgétaire, en matière de lutte contre la corruption, etc. Et si les paliers sont atteints, eh bien, l'enveloppe est à la hauteur de ce qui était promis. S'ils ne sont pas atteints, l'enveloppe est moindre. Maintenant, je dirais que l'aide au développement, il ne faut pas se leurrer non plus, ça reste un outil d'influence, un outil de politique extérieure, et que, enfin, je m'excuse de revenir à l'affaire des biens mal acquis, mais vu les accusations qui pèsent contre Nicolas Sarkozy de financement de sa campagne électorale par le président Bongo en 2007, derrière, il ne faut pas tellement s'étonner que l'une des premières mesures qui a été prise en juillet 2007 par Nicolas Sarkozy, ça a été d'effacer 20% de la dette gabonaise, alors qu'à Bercy, il disait qu'il ne fallait surtout pas en effacer plus de 5%. Et puis, alors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais en février 2008, le secrétaire d'État à la coopération d'ailleurs, donc le ministre du Développement, Jean-Marie Bockel, qui voulait en finir justement avec ce soutien à des régimes corrompus, Omar Bongo a eu sa tête. Il a été renvoyé aux anciens combattants. Bon. Alors que Denis Sassou Nguesso est poursuivi dans cette affaire des biens mal acquis, il était encore reçu à l'Elysée il y a un mois. Donc tout ça pour dire que c'est difficile d'imaginer quand au plus haut sommet de l'État, sans parler de Kadhafi, de Ben Ali, etc., enfin on a vu le renversement de rhétorique au moment où ces régimes chutent, mais quand au sommet de l'État on a une telle connivence avec des régimes qui sont certes peu recommandables, il est difficile derrière pour les services. Ils résistent tant qu'ils peuvent, mais il est difficile de ne pas octroyer les crédits que l'exécutif peut leur ordonner.
Alors, nous approchons de l'heure de la fin. Je vous propose peut-être de prendre une toute dernière question ou conviction, s'il y en a une. Oui, monsieur. Voilà, on va faire passer le micro devant. Et puis, voilà, levez la main pour qu'on puisse... Voilà.
Nous avons entendu parler beaucoup et presque uniquement de la corruption publique ou de la personne publique. Or, monsieur Jean-Bert, vous avez parlé de TRACFIN, qui crée une obligation de délation pour les particuliers. c'est-à-dire pour les banquiers, pas uniquement pour les banquiers. Vous avez cité un commissaire-priseur Christie, mais les notaires, de la même manière, les avocats, sont tenus à une obligation de délation. Lorsque les fonds qu'ils détiennent, qu'on leur remet, leur apparaissent simplement suspects. Et les règles sont très mal établies. Alors, premièrement, je voudrais savoir si les premiers résultats de Tracfin ont abouti d'une manière positive. Et deuxièmement, est-ce que cela justifiait de porter une telle atteinte à la confiance de ce qui est un contrat de dépôt? Et le contrat de dépôt est fondé depuis toujours en droit français, depuis les Romains également, sur la confiance. Il y a des pays où la délation est admise, les pays germaniques, qui sont des bons citoyens, considèrent que c'est un devoir. En France, nous ne sommes pas habitués à la délation. Est-ce que ça valait la peine d'instituer Tracfin de telle sorte que l'on porte atteinte à la confiance dans des contrats qui sont des contrats particuliers sur la simple supposition d'une irrégularité dans la détention des fonds?
Merci beaucoup pour cette question. Éric Halte.
Alors d'abord, ce n'est pas exactement une délation, c'est un signalement, parce que le signalement porte sur les faits, la délation porte sur les personnes. Ensuite, c'est un signalement qui ne va pas donner lieu à d'autre chose qu'une vérification. Alors, ensuite, pourquoi ce système? Ben, il y a un équilibre entre l'atteinte aux libertés et la nécessité de combattre le crime. Et cet équilibre-là, il est réalisé de cette façon. Parce que si on veut effectivement lutter contre le blanchiment, si on veut lutter contre la réintroduction dans l'économie de fonds qui ont été extraits illégalement de l'économie, bien, si on veut taper à la caisse pour aller vite, eh bien, il faut en aller par là. Aux États-Unis, il y a un autre système qui est systématiquement, donc on ne demande pas aux banques de faire cette sélection préalable, il y a une systématiquement, on envoie tout ce qui, par des logiciels, excède un certain montant, et les analyses plus fines sont faites par l'équivalent de Tracfin aux États-Unis. Il y a différentes manières, mais de toute façon, si on veut se donner les moyens de lutter contre l'argent sale, contre le blanchiment, il faut ce genre de mécanisme. Je note que tous les pays développés ont l'équivalent de Tracfin.
Jean, peut-être le mot de la fin.
Je rajouterai juste un simple mot sur le fait que l'obligation ne pèse pas tant sur des individus que sur des institutions, c'est-à-dire que c'est votre banquier, c'est en tant que banque qui reçoit votre argent et qu'il a le devoir, si vous n'êtes pas à même de répondre sur l'origine des fonds, de faire ce signalement. Et l'autre chose, c'est que la corruption, j'ai dit tout à l'heure que l'un de ces terreaux, c'était l'impunité, mais l'autre terreau de la corruption, c'est le silence qui l'entoure. On sait parfaitement que les mafias, elles reposent sur cette loi du silence, l'omerta. En matière de corruption, si vous n'avez pas des mécanismes qui permettent que des contrôles soient effectués, contrôle ne veut pas dire sanction. S'il n'y a rien à reprocher, évidemment, il ne vous arrivera rien. Mais que des mécanismes de contrôle puissent opérer sur cette base-là, ça me paraît une condition sine qua non de l'efficacité de la lutte contre le crime organisé.
Voilà, je voudrais remercier en votre nom très chaleureusement nos invités pour l'éclairage qu'ils nous ont apporté.